C'est déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Frédéric Le Ternier.
Bonjour à tous et bienvenue à vous. Ce lundi, nous parlons de résidence alternée. Un mode de garde d'enfants pour parents séparés. La plupart du temps, selon le modèle, vous savez, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Ce mode de garde, il séduit 20% seulement des couples séparés. Et aujourd'hui, on s'interroge aussi et surtout sur le bien-être des parents autour de cette mise en place. Quels sont les avantages et les contraintes? On essaye d'y voir plus clair et de trouver des clés. Et si vous avez peut-être dit au revoir et bonne semaine hier à votre fils, votre fille, vos enfants et que vous n'arrivez pas à gérer les semaines sans eux. Si au contraire cette situation vous épanouit et vous profitez de tous les moments, les semaines avec et les semaines sans, si vous devez y mettre un terme car vous déménagez, si ça se passait bien avant mais qu'aujourd'hui ça coince avec la construction d'une nouvelle famille, eh bien appelez-nous, on a envie de vous entendre, d'entendre vos témoignages au 0810 055 056. Et pour nous accompagner jusqu'à 16h, un enseignant et sociologue, père de 3 enfants, qui vient de publier une semaine sur 2 aux éditions Les Arènes, une véritable enquête de plusieurs années autour de ce sujet. Cet auteur, c'est Benoît Haché. Bonjour, bienvenue à vous.
Bonjour.
Merci d'être là. Alors, première question, vous êtes un papa, je l'ai dit. Vous avez vécu cette situation de résidence alternée. C'est ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre, de faire cette enquête?
Oui, tout à fait. C'est à partir de mon expérience personnelle que je suis parti, en fait, à développer un intérêt pour ce sujet-là. Mmh. Et comme je suis sociologue, ou j'étais en formation de sociologie encore à ce moment-là, je suis parti de mon expérience personnelle pour essayer de regarder comment les autres parents alternants, que j'ai appelé alternants ou alternantes, font pour organiser la résidence alternée de leurs enfants.
La première chose, pourquoi on dit aussi résidence alternée? Parce qu'on utilise le terme garde alternée, oui. Mais c'est pas le bon.
Alors ça, c'est très souvent utilisé. Tout le monde parle de garde alternée. Je disais même parfois des avocats ou des gens qui sont vraiment du métier, ou des magistrats peut-être un peu moins. Mais et en fait, depuis 1987, on n'utilise plus le terme de garde parce que le juge attribue la résidence et non pas la garde. Et pour aller un peu plus loin, on dit la garde, c'est bien pour garder les moutons, pour les garde-meubles. Mais en fait, les enfants, on les élève. On les élève à deux, on les élève seuls, on les élève comme on peut, certes. Mais on les garde pas. Voilà. Et ça, c'est important.
Alors, le plus souvent mis en place, c'est pas forcément la résidence alternée. C'est plutôt résidence principale et puis un week-end sur deux chez le papa. Pourquoi c'est seulement 20%
alors,
des cas?
Déjà, c'est même pas 20%. Bon, par rapport au livre, c'est des chiffres un peu bougés. On est plutôt à 12%. C'est encore plus bas.
Ah, ça a baissé depuis.
C'est pas que ça a baissé, c'est que les statistiques sont pas les mêmes et qu'on va peut-être pas rentrer dans un grand débat sur les statistiques là-dessus.
Enfin, mais ça fait pas beaucoup.
Les statistiques les plus solides sont autour de 12% aujourd'hui, qui sont vraiment les plus récentes. Oui, ça fait pas beaucoup. Effectivement, on est à 70-75% des enfants au moment d'une séparation parentale qui vivent chez la mère avec un week-end sur deux chez le père et la moitié des vacances. Ça, c'est le modèle le plus classique. Et votre question, évidemment, est très très importante et très intéressante, savoir pourquoi il y en a aussi peu, en fait. Parce que on s'aperçoit aussi, à partir d'enquêtes qui étaient faites dans les années 2000, quand on demandait aux Français de plus de 15 ans qu'est-ce qui serait la meilleure chose quand les parents se séparent pour leurs enfants, la grande majorité répond « ce serait bien qu'ils vivent chez les deux ». En fait, quand les gens se séparent, c'est un petit peu plus compliqué, à savoir que souvent... Alors là aussi, évidemment, il y a tout un tas de situations très différentes, mais assez souvent... Les pères se sont pas occupés des enfants, se sentent pas compétents ou moins compétents que les mères. Les mères se sentent dans l'évidence de devoir s'en occuper, sinon elles ont l'impression de pas faire leur boulot. Vous voyez quelque chose comme ça. Donc finalement, là, il n'y a pas tant de ça de bagarre sur la résidence, puisque quand on arrive devant la justice, là aussi, je vais pas citer les enquêtes, peu importe, mais on a un accord global des parents pour que les enfants résident chez la mère, de façon générale.
Et pourtant, c'est la première option proposée par la justice que j'ai découvert dans votre ouvrage.
Ouais, alors c'est la première option proposée par la justice dans l'écriture de la loi. Ça veut pas dire qu'elle est pas...
Elle est proposée à chaque fois.
On dit que les enfants peuvent vivre en résidence, en alternance chez l'un ou chez l'autre de leurs parents, ou de façon principale chez l'un ou l'autre. Ou, enfin, la formulation est de cet ordre-là. Mais c'est pas... une résidence alternée par défaut. Quand je dis une résidence alternée par défaut, c'est par exemple la loi belge, ou dans la loi belge, on regarde d'abord si un des deux parents demande, et c'est toujours très important de dire ça, c'est pas en général, si un des deux parents le demande, on regarde si la résidence alternée peut se mettre en place. Et il faut que le juge justifie de ne pas la mettre en place. En France, c'est le contraire. En France, on regarde pas la résidence alternée par défaut, on regarde pas la résidence alternée en premier, on regarde ce qu'ont demandé les parents. dans le texte, il y a écrit alternance ou chez le père ou chez la mère. Et puis, à partir de là, le juge tranche quand ça passe en justice. Parce que là, on part sur les questions de justice, mais moi, j'ai rencontré beaucoup de parents qui se sont séparés, qui n'étaient pas mariés, qui sont passés par aucune justice et qui se débrouillent tout à fait tout seuls, sans aucun juge qui ait décidé quoi que ce soit.
Ce qui est très intéressant, et on va en reparler hein, jusqu'à 16h dans votre ouvrage, c'est qu'on se place aussi du point de vue des parents. Parce que dans ces cas-là, on parle beaucoup des enfants. C'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses là-dessus, donc on l'évoquera peut-être un peu. Mais l'idée, c'est de parler des parents, parce que personne ne s'occupe d'eux. Et c'est difficile pour eux également, ces situations. C'est peut-être votre cas, vous, qui nous écoutez à la maison, là, sur la route, de tiens, ça me fait penser à ma situation, c'est pareil, c'est difficile parfois. Ou alors vous trouvez que c'est vraiment l'idéal, ceci. Système, eh bien vous nous appelez, on a envie de vous entendre hein, sur le mode de résidence alternée, si c'est ce que vous avez choisi, 0810 055 056. Et nous parlons de résidence alternée. Alors, ça vous dit peut-être rien, mais on a fait le point avec mon invité il y a quelques minutes, c'est la garde alternée, sauf que le terme, c'est pas le bon. Donc on parle de résidence alternée, une semaine chez le papa, une semaine chez la maman, ça se passe pour nombre d'entre vous, pas assez, parce que c'est pas le modèle forcément le plus choisi en France. On regarde les inconvénients, les avantages, on fait le point avec notre invité Benoît Hachet, qui nous fait le plaisir d'être avec nous en studio jusqu'à 16h et qui a sorti aux éditions Les Arènes une semaine sur deux, comment les parents séparés se réinventent. C'est bien du point de vue des parents et ça fait du bien aussi hein, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des enfants quand les couples sont séparés, mais on pense pas souvent au bien-être des parents et c'est important. Lucien nous a appelé pour nous parler de son expérience. Lucien est dans le Gard. Bonjour Lucien, bienvenue.
C'est l'ancien.
Lucien.
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous êtes dans le Gard, oui, Lucien, bien. C'est ça hein.
Oui, c'est ça.
Alors, vous, la résidence alternée, vous l'avez fait pour vos enfants, c'est ça, Lucien ?
Oui, pour ma fille. J'ai qu'une fille, donc pour ma fille, oui. Pendant 10 ans, on l'a fait la garde alternée avec mon ex-compagne, et ça s'est mis en place naturellement. Et à la séparation, on y a pensé tout de suite.
À quel âge elle avait quand vous êtes séparés, du coup, Lucien ?
12 ans.
12 ans, et elle, comment elle l'a vécu bien? Elle était contente d'avoir...
Ah oui, elle, sur le coup, comme toute séparation, elle s'est demandé ce qui arrivait. Mmh. Et ensuite, quand on lui a expliqué que de toute façon, elle allait alterner d'une maison à l'autre, ça lui a posé aucun problème, surtout qu'on a choisi un système qui était assez naturel pour elle, où elle n'avait pas besoin de réfléchir, dans le sens qu'au lieu de faire, comme beaucoup font, commencer le week-end et terminer le week-end, on commençait du lundi au lundi, ce qui fait qu'elle, elle faisait sa semaine entière. Et elle allait à l'école, et en sortant de l'école, c'était l'autre conjoint qui la récupérait à la sortie de l'école. Donc pour elle, ça se faisait un...
Naturellement.
Ça faisait un mouvement où elle n'avait pas besoin de penser où elle devait aller, à quel moment. Et... Mais bon, le secret, c'est qu'au départ, la séparation, elle se passe correctement. C'est-à-dire que ça se passe dans la sérénité. Si déjà les gens se déchirent au début, la résidence alternée, ça devient compliqué.
Alors Lucien,
que ce soit au départ une bonne entente.
Une bonne entente à l'amiable, c'est ce qu'écrit Benoît Hachet dans son livre aussi. Je vous ai vu réagir sur les propos de
oui,
Lucien.
Je trouve, merci Lucien pour votre témoignage. C'est intéressant les changements le lundi. Vous dites le changement, j'ai changé le lundi ou on a changé le lundi, parce que comme ça, elle voyait clair dans sa semaine. C'était le premier jour de la semaine. Et alors il y a d'autres parents, quand on leur demande mais pourquoi vous changez le dimanche, ils disent c'est logique parce que c'est le dernier jour de la semaine, donc les enfants voient clair, tout le monde voit clair. Et puis d'autres, comme vous le dites, système qui vous paraît plus compliqué, change le vendredi. Ils sont d'ailleurs les plus nombreux sur les 5000 parents que j'ai interrogés par questionnaire, etc. Ils sont les plus nombreux en commençant par un week-end, en se disant je vais commencer par avoir un espace de repos en fait avec mes enfants.
De détente.
Et
oui.
De détente, évidemment, pour ceux qui travaillent pas le week-end, tout ça change en fonction des circonstances. Alors que un certain nombre de fois, les gens qui commencent le lundi, c'est on récupère ma fille par exemple le lundi soir, clac, il faut direct être dans les activités de travail, de surveillance. Mais évidemment, chacun va trouver des satisfactions dans tel ou tel jour pour tout un tas de raisons. Il n'y a pas de Et ce que j'essaye de dire dans mon livre, il n'y a pas de modèle en fait, il y a tout un tas d'expériences parentales qui dépendent d'énormément
de
facteurs.
Du caractère de la
énormément
personne.
De facteurs.
Et justement Lucien, vous ces semaines sans votre fille à l'époque, vous les viviez comment? C'était très festif ou calme? Ça vous déprimait ou non? C'était comment?
Oh non, pas du tout. C'était naturel. En fait, le truc qu'il y a, c'est qu'on vivait dans le même village. Donc on habitait chacun à une rue, à deux rues l'un de l'autre. Donc ça faisait pas énormément de changements. On se croisait, on se voyait... Et puis comme il n'y avait pas de litige, il n'y avait pas d'agression, donc tout allait très bien.
Et du coup, aujourd'hui, vous avez refait votre vie, Lucien. Est-ce que vous avez refait une famille, entre guillemets? Est-ce que votre fille a dû s'adapter?
Non.
Non, non, d'accord.
Non.
Donc vous la voyez?
Non. Vous oui, je la vois toujours, ma fille. Ma fille fait sa vie, elle habite au bout de ma rue.
C'est parfait. Elle est restée aussi dans le coin. Le secret, du coup, Benoît Chez, c'est aussi la proximité. Ça ne peut pas marcher si on est éloigné l'un des parents.
Ce que j'ai calculé, moi, à partir toujours de cette enquête, c'est que la distance moyenne entre les domiciles est de 5 km. Ou 12 minutes, si on calcule en temps. Ça dépend évidemment du milieu rural, urbain, des métros, du gare, etc. Et donc, les gens sont pas si proches que ça, mais 5 minutes de voiture quand vous habitez, je sais pas, je dis pas de bêtises, à Tarascon ou non, c'est de l'autre côté, à Beaucaire. Enfin bon, bref, de l'autre côté du Rhône, et que vous avez véhiculé votre enfance, enfin 5 kilomètres, ça se fait très très facilement en fait. Et puis parfois les parents, alors vous avez eu la chance de bien vous entendre, et je crois que vous avez tout à fait raison de dire, évidemment c'est beaucoup plus simple quand les gens s'entendent bien dans les divorces, que ce soit d'ailleurs la résidence chez l'un ou l'autre des parents, ou alterner, enfin quoi qu'il arrive. Certains parents ont besoin de mettre des distances en fait aussi, et de pas habiter à côté de chez leur ex, par exemple, pas dans le même village. Moi, j'ai rencontré des gens dans le Gers cette fois-ci qui m'expliquaient que non, c'était pas possible de vivre dans ce même village. Il a absolument fallu que c'était la mère qui parlait, qu'elle aille à 7-8 kilomètres, parce que ça lui, il n'était pas question pour elle, même
besoin
si
besoin de changement, de
voilà,
renouveau, oui.
De renouveau, et puis de pas se croiser tous les jours quand bon, on fait ses courses, etc. Puisqu'on s'est séparés, c'est aussi l'idée de partir un peu ailleurs, bien sûr.
Alors si, comme Lucien, c'est bien passé, vous avez envie de partager avec nous cette expérience, passez-nous un petit coup de fil. Si au contraire, ça a été un peu la cata, cette résidence alternée, parce que c'est vrai que si on a un projet professionnel, si on veut changer de région, ça peut être compliqué également. Ça peut être compliqué aussi si on refait une famille. On va aborder tous ces thèmes dans C'est déjà demain jusqu'à 16h. Passez-nous un petit coup de fil, on partage là ensemble. 0810 055 056.
France Bleu, c'est déjà demain.
Et vous, dites-moi, comment vous organisez la résidence alternée? Résidence alternée, c'est le sujet de C'est déjà demain jusqu'à 16h. Une semaine sur deux, c'est le titre du livre de notre invité Benoît Chez, sorti aux éditions Les Arènes. Une grande enquête. Vous avez rencontré beaucoup de gens pour sortir ce livre. C'est passionnant parce que on se balade à la fois dans les grandes villes. Il n'y a pas une question géographique ni une question de milieu sur ce type de résidence alternée. Ça concerne tout le monde finalement, Benoît Chez.
Alors, ça concerne tout le monde. Sauf que si on regarde en proportion, il va y avoir plus de résidences alternées dans les milieux aisés. Dans les milieux aisés, pour des raisons financières, il faut avoir deux maisons, ou deux appartements. Par exemple, il y en a assez peu à Paris, proportionnellement, parce que c'est très cher. Mais le fait que ce soit plus répandu ou plus fréquent dans les catégories aisées ne veut pas dire que ça n'existe pas ailleurs. Et comme les catégories, on va dire, moyennes et plus populaires sont plus nombreuses, la résidence alternée est répandue dans tous les milieux. Elle est répandue aussi, contrairement souvent à ce qu'on croit, plus dans les derniers chiffres de l'INSEE, donc dire des gens sérieux, elle est répandue plus répandue en milieu rural qu'en milieu urbain, ce qui est assez surprenant, mais
oui,
aussi pour des raisons de coûts. Enfin, quand vous avez, je sais qu'il y avait des études autour de Brest, par exemple, et s'il y a des gens de Brest, ils sont les bienvenus pour confirmer évidemment
oui,
ce que je dis, si je dis pas de bêtises, mais on peut avoir ou on pouvait avoir une maison proche de Brest pour une somme qu'on peut payer si on a un SMIC ou un petit peu plus, et donc loger un ou deux enfants, ce qui est absolument pas possible dans les grandes villes, mais même Bordeaux, Lyon, ou Auxerre peut-être aussi.
On y va parce que Pauline, elle nous attend. En effet, très bonne transition, Benoît Chez. Bonjour Pauline, merci de nous avoir appelé.
Bonjour.
Alors vous venez tout juste de vous séparer, Pauline, c'est ça?
Oui, ça fait quelques mois effectivement.
D'accord, et vous avez deux enfants?
Tout à fait.
Bon, et vous avez choisi le mode de résidence alternée avec votre ex-compagnon?
Oui, oui, oui.
Comment ça s'est fait, Pauline? Vous en avez discuté? Vous étiez en bon terme?
Oui, 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 on est en bon terme. Pour nous, c'était assez logique, en fait, de fonctionner comme ça et de les avoir autant l'un que l'autre.
Et c'était facile au niveau de l'habitat, comme nous disait Benoît Chez? Vous avez eu du mal à... Est-ce que vous êtes resté, vous, dans l'ancienne maison, appartement, ou vous avez trouvé un nouveau logement?
Oui, un petit peu.
Un petit peu.
Ouais. Non, on a cohabité pendant environ 2 mois.
Et ça s'est bien passé, cette cohabitation, Pauline? Pauline?
Ouais. Oui.
Il ne faut pas que ça dure trop longtemps.
Globalement, oui. C'était un petit peu compliqué au début, au niveau de l'entente entre nous, donc c'est vrai que c'était pas toujours facile, mais Mais, alors, mais ça aurait pu être pire.
Ça, vous en parlez aussi dans le livre, Benoît Hachet, ce moment un peu charnière où on est forcément obligé au tout départ de cohabiter, mais le couple n'est plus ensemble. C'est un peu compliqué pour tout le monde, même pour les enfants qui ne doivent pas tout comprendre.
Oui, qui ne comprennent pas bien. Et j'ai rencontré deux ex-couples, plus je parle aussi d'un cousin dans le livre, parce que je parle aussi des gens qu'il y a autour de moi, en plus de l'enquête, qui ont vécu sous le même toit pendant 2 ans. On appelle ça, c'est même une nouvelle catégorie sociologique, c'est les séparés vivant ensemble, en fait. Il y avait la catégorie des gens vivant ensemble, des couples non cohabitants, donc qui vivent en couple, mais chacun chez soi. Là, c'est les gens séparés qui vivent sous le même toit, pour des raisons principalement financières. Le temps, je crois que je l'écris comme ça d'ailleurs. Alors c'était là, en l'occurrence, je pense à une situation parisienne, le temps de transformer ou de tricher suffisamment avec sa feuille de paye pour pouvoir avoir accès à ne serait-ce qu'un HLM quelque part, etc. Et tant que les gens n'ont pas de ressources, ou si les ressources sont très inégalitaires entre les deux, ou si l'un est propriétaire, l'autre pas, si l'un a un travail là aussi très rémunéré et l'autre pas, bah c'est effectivement très compliqué de démêler tout ça. Et ces périodes-là sont effectivement pas simples pour tout le monde et personne n'y comprend grand-chose. Vous le dites, Pauline, oui, que c'est bon, c'était... Voilà, on a fait comme on a pu. Voilà, ça a pas duré très longtemps, mais il y a toujours ce moment-là, en fait, entre le moment où les gens disent, bon, maintenant, on arrête, et de mettre la logistique en place, ça prend beaucoup de temps. Ça, c'est sûr.
Pauline, je me permets de vous poser la question, comment vous allez? Parce qu'apparemment, votre séparation, elle est récente, donc faut se réinventer. Donc aujourd'hui, vous avez votre habitation à vous. Comment ça va?
Bah, plutôt bien. En fait, j'ai été plutôt libérée. Voilà, j'ai l'impression d'avoir un peu changé de vie. Hein, donc j'ai la partie où je suis maman et l'autre partie où je suis femme, en fait.
Les semaines où les semaines où vous n'avez pas les enfants, vous en profitez pour prendre soin de vous, c'est ça? C'est ce que j'entends?
Oui. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, profiter, ressortir aussi. Puis on a vécu quand même des périodes, de confinement, et c'est vrai que ça, je pense qu'on a tous besoin, hein, quelle que soit notre situation, de ressortir aussi et de retrouver notre liberté.
Et dans le cadre de votre travail, ça se passe bien, les horaires, ça va, c'est le principe d'une semaine sur deux?
Alors, on n'est pas vraiment sur une semaine sur deux. Nous, on coupe la semaine en deux et on fait un week-end sur deux, justement, pour des soucis d'organisation professionnelle.
Bon.
Mais écoutez, on a trouvé notre organisation.
Bah, ça s'entend. Pauline, je vous souhaite le meilleur pour la suite.
Et bah, merci beaucoup.
Et c'est très gentil à vous d'être venu nous parler de votre expérience dans C'est déjà demain. Merci beaucoup, Pauline.
Et bah, avec plaisir.
Grosse bise, bon vent à vous. Merci.
Au revoir.
Au revoir, Pauline. C'est comme Pauline, vous avez envie de nous raconter comment ça se passe pour vous. 0810, 055, 056, c'est tout simple. On est là pour ça. C'est le principe de l'émission C'est déjà demain. On parle, on cherche des pistes ensemble. On a envie d'entendre vos témoignages. Et puis à l'inverse, hein, vous êtes les bienvenus aussi. Ça s'est pas bien passé. Ça a été, je sais pas, une épreuve, vous êtes revenu à un autre système avec vos enfants, si vous êtes séparés. Parlez-nous aussi de la séparation, on s'intéresse au cas des parents. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas que pour les enfants. Donc, c'est déjà demain, je vous redonne le numéro, allez, 0810 055 056.
C'est déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Frédéric Le Tornier.
Avoir ses enfants une semaine sur deux, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une solution qui convient à tous? On en parle, on ouvre le débat aujourd'hui dans C'est déjà demain. C'est peut-être votre cas, si vous êtes séparés, c'est peut-être ce que vous faites, le système que vous avez trouvé le meilleur avec votre ex et vos enfants. Ou alors vous ne faites pas du tout comme ça et ça ne vous dit rien. Vous nous appelez, on en parle aujourd'hui dans C'est déjà demain avec notre invité, toujours présent évidemment jusqu'à 16h, qui vient de sortir une semaine sur deux. Comment les parents séparés se réinventent? C'est sorti aux éditions Les Arènes et je vous le recommande. C'est une belle enquête. Il y a beaucoup de témoignages qui nous permettent d'y voir un petit peu plus clair. Benoît, avant d'accueillir Laurent qui nous passe un petit coup de fil depuis la Mayenne, il y a quelque chose qui m'a retenu l'attention dans votre livre, c'est notamment les tout-petits, parce qu'on parle de résidence alternée pour les enfants de 10-12 ans, et il y a beaucoup d'affaires, on dit que quand ils sont tout bébés, c'est pas possible, ça va les perturber, c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que c'est pas un petit peu rétrograde comme façon de penser?
Alors, sur les tout-petits, vous allez avoir un peu autant d'avis que de pédopsychiatres, pas loin, quoi. C'est pas vrai, mais on trouve, si vous voulez, dans un sens ou dans l'autre, vous allez trouver des arguments. Il y a eu assez longtemps les réticences, notamment, je dis, des pédopsychiatres en particulier, sur la perturbation que pouvaient engendrer les séparations des enfants, le plus souvent avec la mère.
Donc,
oui, pour les petits, cette question se pose aussi. Après, vous avez d'autres auteurs ou d'autres chercheurs qui vont dire, mais les enfants, ils ont besoin en fait de deux figures. Que la question n'est pas simplement d'avoir une seule figure d'attachement, mais d'en avoir deux. Et les mouvements géographiques, permettent de continuer à avoir un attachement affectif avec les deux. Donc, est-ce qu'il vaut mieux avoir un attachement affectif un seul en perdant l'autre ou pas? C'est une question qui est évidemment compliquée. Et puis avec un petit, comment on fait? Comment on fait s'il y a allaitement? Comment on fait? Est-ce qu'on se permet de le faire? Alors certains le font dans les tribunaux que j'ai pu dans lesquels j'ai pu étudier ou faire mon enquête. Dans certains tribunaux, alors je parle déjà d'il y a peut-être une petite dizaine d'années ou 7-8 ans. Avant 6 ans, ils le faisaient pas. D'autres c'est avant 3 ans. D'autres voilà. Donc tout ça est très variable selon les situations. Après ça dépend comment les gens vivaient. Ça évolue.
Et
les réticences, voilà, les réticences sont beaucoup moins fortes sur les enfants petits. Et l'âge médian des enfants aujourd'hui, c'est à peu près 9 ans. Effectivement, on parle plutôt d'enfants de 8-9 ans, mais personnellement, j'ai commencé la résidence alternée, mon fils avait 2 ans. Et tout le monde nous est tombé dessus. Alors, c'était en 2003, hein, ça fait très longtemps.
Et tout le monde nous est tombé dessus.
Ah oui, aussi bien le pédiatre que le juge, que c'était
pas l'attitude responsable, selon
eux. Oui, c'était très dangereux de le faire bouger, de le séparer de sa mère. Mais avec sa mère, nous étions tous les deux d'accord pour que ça se passe comme ça. Ça nous paraissait le plus évident.
Il va bien, votre fils, aujourd'hui.
Il va bien.
Bon, très bien. On va accueillir Laurent, qu'on a fait un petit peu patienter. Bonjour, Laurent.
Bonjour.
Bonjour. Vous aviez une question par rapport au droit, hein, c'est ça, Laurent?
Oui, c'est ça.
Ouais,
c'est ça. C'est par rapport au droit social où en fait aujourd'hui, quand je prends du côté des impôts, quand on déclare les enfants tous les ans, il y a une case qui indique la résidence alternée. Mais quand on arrive au niveau du droit social, les enfants, que ce soit la CAF, la MSA, au niveau des caisses sociales, les enfants ne sont attribués principalement qu'à un seul des deux parents, et le deuxième parent est secondaire. Ce qui fait que, quand un parent détient toutes les aides quand on a plusieurs enfants, l'autre parent n'a plus aucun droit, en fait. C'est-à-dire que quand la maman a tous les droits, le papa, par exemple, ne peut plus faire de demande, ou quand il fait des demandes d'aide sociale, on lui dit « Mais monsieur, vous êtes tout seul, vous n'avez plus d'enfants. Donc, débrouillez-vous. »
Même dans le cadre d'une résidence alternée, alors?
Alors la seule chose qui existe aujourd'hui, c'est qu'il existe pour les enfants, pour les allocations de base, qui peuvent être attribuées pour moitié au papa et à la maman quand ils sont en résidence alternée. Mais dès qu'on arrive sur des demandes d'aide au logement, des demandes, toutes les autres demandes sociales, elles sont bloquées principalement vers soit l'un, soit l'autre des parents.
Laurent, on imagine que c'est votre cas si vous nous en parlez, donc...
Et donc j'ai essayé de discuter au niveau des services sociaux.
Oui.
J'ai fait remonter le juge des affaires familiales, en fait, est considéré entre guillemets incompétent parce que c'est pas son domaine d'activité. Et donc il y a un vide juridique, il y a un vide législatif qui fait qu'aujourd'hui la résidence alternée n'existe pas n'existe pas en termes de droit social. Ou dans l'idée, c'est pas de dire je vais enlever des droits à la maman des enfants, mais plutôt de dire que si dans ma situation, on m'explique que non, monsieur, vous n'avez plus d'enfants.
Oui, vous préfériez une égalité. Benoît Haché, vous le saviez, vous étiez au courant de ce problème, évidemment.
Bien sûr, merci Laurent pour cette remarque. Effectivement, depuis donc la loi sur la résidence alternée, c'est 2002. En 2007, il y a une continuité au niveau social, c'est-à-dire que les allocations familiales peuvent être partagées en deux, même sur la demande d'un seul de droit. Et par contre, effectivement, les allocations que vous citez, mais on peut rajouter rentrée scolaire, aide éducation enfant handicapé, enfin, mais c'est pas exactement le terme, cela ne bénéficie qu'à un seul des deux parents. Alors effectivement, ça crée des situations assez compliquées. Vous avez raison de dire aussi que souvent, elles sont plutôt attribuées à la mère, parce que c'est plutôt la mère qui a un dossier à la CAF, par exemple. Et donc, la CAF, il se pose même la question de savoir, de façon plus générale, comment accueillir les pères. Ils savent parler aux mères, ils savent pas très bien parler aux pères. Et c'est une question qui a été soulevée dans une enquête déjà de 2008, donc ça fait bien longtemps, où on interrogeait tout un tas de parents alternants qui disaient il faut faire évoluer le droit social. Alors les demandes se font régulièrement, mais ça n'avance pas beaucoup. Après, il y a les réponses qui peuvent être faites, mais qui sont pas tout à fait satisfaisantes, c'est de dire que globalement, Les pères gagnent plus que les mères, mais bon, comme dans chaque situation, ça peut être tout à fait différent. Ça n'a pas, ça ne va pas avoir beaucoup, beaucoup de sens. Donc, je crois que la question, enfin, revient assez régulièrement auprès des, comment, des juges. Vous le dites vous-même, qui se déclarent incompétents et les choses ne sont pas avancées là-dessus. Hein. Mais je crois que vous avez raison de dire ça.
C'était intéressant de nous appeler, Laurent, pour nous le signaler. C'est forcément des choses auxquelles on pense pas tout de suite, mais qui rentrent en ligne de compte. Et effectivement, s'il n'y a pas d'égalité là-dessus, ça ne peut pas forcément aller. Puis ça peut même tendre les choses entre le couple séparé. Merci beaucoup de votre témoignage, Laurent. On parle de résidence alternée cet après-midi dans C'est déjà demain. Alors si ça vous fait le choc un peu l'oreille, c'est garde alternée, c'est pareil. Mais garde alternée, ça choque un peu l'oreille de notre invité. Il a bien raison, ce n'est pas le bon terme. Notre invité, c'est Benoît Haché, qui a sorti une semaine sur deux. Comment les parents séparés se réinventent? C'est aux éditions Les Arènes et c'est précieux. Parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages sur la façon dont les enfants le vivent, mais très peu sur les parents. Vous avez mené une enquête, vous avez rencontré énormément de personnes, il y avait un questionnaire aussi. Et donc votre enquête est très précise et puis surtout c'est très humain, c'est ça qui est touchant. On voit les cas de figure de ces parents séparés. Il y a aussi une idée chronologique dans le livre, le début de la séparation, la période après un peu seul et puis pour d'autres, comment ils se reconstruisent une nouvelle famille après, comment ça se passe. On va essayer d'aborder tous les angles dans cette émission, mais pour le moment on accueille Jérôme qui voulait nous parler de son expérience. Jérôme qui est à Bordeaux, bonjour Jérôme.
Bonjour à tous.
Jérôme, alors vous avez un enfant, plusieurs enfants?
J'ai une fille de 7 ans.
Une fille de 7
ans. Séparée depuis maintenant plus de 5 ans.
D'accord. Donc elle était assez jeune au départ, au moment de la séparation?
Elle était petite. Elle était petite, effectivement. Je ne pense pas qu'elle ait vraiment de souvenirs de papa-maman ensemble, même si des fois elle en parle.
D'accord. Et du coup, ça s'est bien passé? Est-ce que la résidence alternée, ça a été tout de suite l'option que vous avez choisie?
Ah oui, ça a été tout de suite. Alors on s'entend toujours bien, c'est ce que j'ai entendu juste avant. C'est vrai qu'on s'entend plutôt bien avec sa mère. Mm-hmm. On fait partie de la moyenne. Voilà, on est à 6 km l'un de l'autre. L'école est à mi-chemin entre mon domicile et le sien. Voilà, on essaie vraiment de faire moitié-moitié. Voilà, pour la première année, on a fait un mois pour les vacances juillet-août. Et tout se passe plutôt bien. Là, maintenant, elle demande même une petite sœur, donc, ou un petit frère. Enfin, voilà. Donc, parce que du coup, moi, je me suis remis en couple et ça va plutôt bien.
Ouais.
Mais l'interrogation que j'ai, parce que je vois qu'il y a quand même un changement d'attitude. Nous, on est du vendredi au vendredi. On fait partie de ceux qui sont du vendredi au vendredi. Et quand on la récupère le vendredi soir, il y a forcément des habitudes qui ont été prises chez sa mère.
Ah.
Et on se dit souvent, il faut tout remettre à zéro, mais parce que il se passe aussi la même chose quand elle va chez sa mère après une semaine chez nous. Je pense que voilà, elle a ses habitudes chez les uns, chez les autres, c'est pas forcément, enfin chez l'un, chez l'autre, et c'est pas forcément simple pour elle. Et en grandissant, là, au bout de 5 ans, je me demande si c'est vraiment la bonne option de faire une semaine, et est-ce que c'est pas mieux pour l'enfant que d'être tout le temps chez l'autre et presque rien chez l'autre.
Mais Jérôme, vous soulevez un point intéressant, on n'en a pas parlé encore. C'est vrai, l'éducation, surtout quand les parents sont séparés alors que l'enfant ou les enfants sont jeunes, peut prendre des directions différentes. On n'est pas forcément obligé d'être d'accord sur le système éducatif et après on se retrouve avec des choses qui nous plaisent ou moins quand l'enfant revient à la maison.
Ouais, beaucoup de parents racontent comme Jérôme que le vendredi soir, il faut 1 heure, 2 heures pour se réhabituer, pour alors les uns les autres reprochant plus ou moins à l'autre parent de pas faire exactement la même chose. Et puis évidemment, on trouve le contraire quand on les interroge les deux en disant mais moi je voudrais que. Après, quand on regarde, est-ce que c'est bien pour les enfants? Est-ce que c'est une bonne solution pour les enfants? Est-ce que, enfin, sous-entendu, ça va pas les perturber d'avoir deux résidences, etc. C'est une question que tout le monde se pose quand ils rentrent dans la résidence alternée. Peut-être qui se pose aussi les parents qui divorcent quand les enfants résident chez la mère, comme la plupart du temps. C'est aussi, est-ce que c'est bien, pas bien qu'ils voient plus ou quasiment plus son père? Je crois qu'on peut aussi se poser la question comme ça. Il y a des sociologues qui disent en fait c'est les enfants qui ont des parents séparés, donc qui voient autant l'un que l'autre, ils rentrent dans une forme de métissage culturel. C'est-à-dire ça fait des enfants qui sont beaucoup plus adaptables ensuite. Ils s'adaptent à des situations plus rapidement que d'autres parce qu'ils sont habitués à faire la part des choses et ils savent très bien que chez papa c'est comme ça, chez maman c'est comme ça, qu'ils essayent un peu, comme ils essayent d'ailleurs dans un couple non séparé, d'aller chez l'un, chez l'autre pour voir s'il y a plus d'autorisation de ci ou de ça. Donc en fait ça crée... Alors il y a forcément des enfants qui vont le vivre aussi très mal. Quand je dis ça, je faut pas dire que tout va bien et tout est merveilleux. Ça ne veut pas dire grand-chose.
Mais c'est pas déstructurant pour un enfant.
Mais c'est pas particulièrement déstructurant. Mmh. Là, on a là aussi des études qui sont faites sur le stress des enfants en résidence alternée par rapport au stress des enfants qui vivent chez uniquement leur mère, etc. Bah, ils sont beaucoup moins stressés en résidence alternée parce qu'ils voient les deux. Et c'est plus compliqué parfois de ne pas voir l'un des parents. Mmh. Il y a une stabilité, ce que j'ai dit tout à l'heure, une stabilité géographique, mais il y a une perte affective, en fait. Voilà. Mmh. Alors qu'est-ce qu'on fait
le plus important. Et puis je pense qu'un bon signe, c'est quand même Jérôme quand il nous dit que sa fille, elle demande un petit frère ou une petite sœur. Oui. Je pense qu'elle va bien. Voilà. Jérôme, merci de votre témoignage. On vous souhaite le meilleur pour la suite, vraiment.
Merci, vous aussi.
Merci, Jérôme.
À bientôt, bonne journée. Et la bise à la petite, hein, surtout. Bonne journée à vous, Jérôme. On continue à parler de résidence alternée dans C'est déjà demain avec notre invité Benoît Hachet. Dépêchez-vous, il reste plus beaucoup de temps si vous avez envie de partager votre témoignage. 0810 055 056.
C'est déjà demain sur France Bleu, jusqu'à 16h.
Et c'est déjà 15h50, il va falloir penser à nous appeler hein, si vous avez un témoignage à nous faire partager. Aujourd'hui, on parle de résidence alternée. Une semaine sur deux, c'est le titre de l'ouvrage de notre invité, Benoît Hachet, aux éditions Les Arènes. Comment ça se passe cette résidence alternée, une semaine avec votre enfant, une semaine sans? N'hésitez pas à nous appeler. On parle beaucoup du point de vue des parents aujourd'hui, et c'est jouissif parce qu'on parle souvent des enfants. Évidemment que c'est la première question qu'on se pose hein, quand on est parent. Évidemment que c'est l'important, mais c'est aussi important de se poser les questions pour soi-même, pour son ex. On a balayé pas mal de questions ensemble. Benoît Hachet, dans le cadre où les parents se remettent à nouveau avec quelqu'un, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des moments où on se dit non, j'ai pas envie les semaines où il y a mon enfant, donc je garde ça pour la deuxième semaine ou... Le début, c'est comme ça souvent?
Oui, alors je crois que le début des recompositions familiales, qui sont pas forcément tout de suite des recompositions familiales, mais quand quelqu'un a une aventure un peu sérieuse, il y a toujours la question de savoir est-ce que je le présente ou ne le présente pas aux enfants, ou je le présente. Et il faut évidemment un peu de temps là-dessus. Et généralement, il y a une semaine où les gens se voient avec leur nouveau compagnon, leur nouvelle compagne, et puis une semaine, ils sont avec les enfants.
Que
et puis
enfants.
Tout ça est hermétique, exactement comme... Peut-être Pauline nous l'a dit tout à l'heure, une semaine je suis femme, une semaine je suis mère, une semaine je suis homme, une semaine je suis père. Donc c'est des choses qui sont assez séparées. Et puis après il arrive un moment où sur l'entente les gens se disent on va peut-être se rencontrer ou se faire rencontrer puis vivre ensemble. Et le moment le plus compliqué c'est en fait de vivre ensemble. Si chacun reste dans son logement, ils se voient comme ils peuvent. Et quand les gens vivent ensemble, après il y a la plupart du temps quand c'est deux alternants ensemble, donc qui ont moitié-moitié et encore que ce soit la même semaine et qu'il y en ait pas un le vendredi et l'autre le lundi, enfin vous voyez.
C'est complexe.
Très généralement, ils se débrouillent pour avoir tous les enfants ensemble et puis après, une semaine à deux. J'ai rencontré un couple, d'ailleurs l'ex de la personne que j'ai interrogée. Ils avaient quatre enfants ensemble, quatre garçons, et lui s'est remis avec une femme qui avait trois filles en alternance. Donc une semaine, ils sont deux, une semaine, ils sont sept.
Ah, ça 4 change
plus
la
3.
Vie.
Alors évidemment, ça change totalement.
Il faut que les enfants s'entendent bien aussi quand même. C'est pas,
c'est pas évidemment, sûr. Évidemment. Là, il faut que les enfants s'entendent bien. Oui, ils font ce qu'ils peuvent, s'entendent bien. Et quand ils s'entendent mal, c'est une des raisons de repartir d'ailleurs avec ses enfants sous le bras, d'une façon ou d'une autre. Après, qu'est-ce qui se passe quand il y a un parent qui rencontre, un parent en alternance qui rencontre une mère qui a ses enfants à plein temps, c'est-à-dire qu'il voit beaucoup plus les enfants de sa nouvelle compagne que ses propres enfants. Ce qui est des fois déstabilisant aussi. Et réciproquement, si c'est dans les cas les plus classiques, une femme qui est en résidence alternée, qui vit avec un homme, qui a ses enfants qu'un week-end sur deux, dans ce cas-là...
Et qui a des problèmes avec son ex.
Qui a des problèmes avec son ex, qui, l'ex elle-même, est en alternance avec quelqu'un qui est aussi en alternance.
Mais on s'aperçoit que c'est des situations à tiroir, en fait.
Voilà, c'est des situations à tiroir. Et comme je l'écris ou comme on peut facilement se le représenter, c'est des jeux de dominos, en fait. Vous appuyez sur un, tout bouge. Par exemple, pour organiser Noël, tous ceux qui tiennent à avoir Noël avec les enfants, qui sont quand même très nombreux, avec plein de bonnes raisons.
Ça casse-tête.
Comment on fait avec les recompositions? Alors, quand il n'y a pas recomposition, on dit une année chez l'un, une année chez l'autre. Ça, c'est le jugement que les gens qui se séparent, c'est assez classique.
Ça, c'est
de
la solution simple.
Une fois que si chacun est à nouveau avec un conjoint qui a des enfants, là, c'est une année sur quatre. Et puis après, on peut imaginer encore plus de complications.
Mais parce qu'il y a les semaines, la semaine où on a les enfants, la semaine où on n'a pas les enfants, mais après il y a tous les imprévus de la vie, les anniversaires, il veut rester avec, passer le week-end chez un copain, ça décale tout. Donc Donc, faut aussi s'adapter sur ces moments qui sont moins habituels.
Oui, tout à fait. Sur les anniversaires, là aussi, quand j'ai posé la question, est-ce que vous fêtez les anniversaires ensemble, vous faites des fêtes ensemble, etc. La plupart des gens le font pas, en fait. Ils font plutôt deux anniversaires chez papa, chez maman. Après, ceux qui s'entendent bien le font, peuvent le faire régulièrement. Mais il y a pas de tendance à refaire un peu des ambiances de famille alors qu'il y a plus de famille. Mmh. Et notamment quand il y a des nouveaux conjoints, c'est parfois compliqué de voir le nouveau de l'ex, ouais, etc. C'est pas agréable, etc. Bon,
c'est plutôt ça, moi, je trouve.
Voilà.
Il nous reste très peu de temps. Ça passe trop vite, une heure. Hein. Nous avons parlé de résidence alternée une semaine sur deux avec notre invité Benoît Haché. Benoît Haché, est-ce que vous diriez, donc, après toute cette enquête, après ce livre sorti aux arènes, après votre expérience de papa, est-ce que vous diriez que c'est la bonne solution, la résidence alternée?
Je crois que c'est une bonne solution, à la fois pour les enfants et pour les parents. Parce que chacun va trouver un peu des moments de respiration pour pouvoir envisager de reconstruire quelque chose. Ce qui est beaucoup plus compliqué, je vais simplement dire ça, pour les mères, par exemple, qui ont leurs enfants tout le temps.
Merci de votre venue, c'était un plaisir de vous recevoir dans C'est déjà demain. Et j'invite tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont encore beaucoup de questions autour de cela, à se procurer votre livre aux éditions Les Arènes.
Merci un grand beaucoup. Merci, au revoir.
À bientôt. C'est déjà demain, c'est déjà fini, mais on revient demain, justement, et on parlera patrimoine sur France Bleu.